Vers minuit, Adam Héron vint l'avertir que les chevaux étaient prêts. Quand le comte de Poitiers sortit de la chambre, il avait le sentiment que 20 mois étaient abolis et qu'il reprenait les choses là où elles se trouvaient à la mort de son père, comme s'il en recueillait directement la succession. Une lune propice éclairait la route. La nuit de juillet, tout étoilée, ressemblait au manteau de la Sainte Vierge. La forêt exhalait ses parfums de mousse, d'humus et de fougères. Elle vivait du frémissement secret des animaux. Philippe de Poitiers montait un excellent cheval dont il goûtait l'allure puissante. L'air frais fouettait ses joues rendues sensibles par les rasoirs du barbier. « Ce serait pitié, songeait-il, que de laisser si bon pays en de mauvaises mains. » La petite troupe surgit de la forêt, traversa au galop Pontierry et s'arrêta, comme le jour apparaissait, au creux d'Essonne, pour faire souffler les chevaux et prendre quelque nourriture. Philippe dévora ce repas assis sur une borne. Il semblait heureux. Il n'avait que 25 ans. Son expédition revêtait un air de conquête et il s'adressait avec une amitié joyeuse aux compagnons de son aventure. Cette gaieté, rare chez lui, acheva de les affermir. Entre prime et tierce, il arriva à la porte de Paris tandis que sonnaient les cloches aigrelettes des couvents d'alentour. Il trouva là Louis d'Evreux et Gaucher de Châtillon qui l'attendaient. Le connétable avait son visage des mauvais jours. Il invita aussitôt le comte de Poitiers à se rendre au Louvre. « Et pourquoi n'irais-je pas tout droit au palais de la cité ?» demanda Philippe.
« Parce que nos seigneurs de Valois et de la Marche ont fait occuper le palais par leurs hommes d'armes. Au Louvre, vous aurez les troupes royales qui sont toutes à mon obéissance, c'est-à-dire tout à vous, avec les arbalétriers de Messire de Galard. Mais il faut agir promptement et résolument, ajouta le connétable, pour devancer le retour de nos deux Charles. Si vous m'en donnez l'ordre, monseigneur, je fais enlever le palais. »
Philippe savait que les minutes étaient précieuses. Il calculait qu'il avait néanmoins 6 à 7 heures d'avance sur Valois. « Je ne veux rien entreprendre dont je ne sache auparavant que cela sera vu de bonne façon par les bourgeois et le peuple de la ville, » répondit-il. Et dès qu'il fut au Louvre, il envoya mander au parloir aux bourgeois, maître Cocatrix, maître Gentien, et quelques autres notables, ainsi que le prévôt Guillaume de la Madeleine, qui avait succédé depuis mars au prévôt Ployebouche. Philippe leur marqua en quelques paroles l'importance qu'il attachait à la bourgeoisie de Paris et aux hommes qui dirigeaient les arts de fabrique et le négoce. Les bourgeois se sentirent honorés et surtout rassurés par un tel langage qu'ils n'avaient plus entendu depuis la disparition de Philippe le Bel. Or, ce roi dont ils se plaisaient à médire du temps qu'il les gouvernait, comme ils le regrettaient à présent. Ce fut Geoffroy Cocatrix, commissaire sur les monnaies fausses, collecteur des subventions et subsides, trésorier des guerres, pourvoyeur de garnisons, visiteur des ports et passages du royaume, maître à la chambre des comptes, qui répondit. Il tenait ses charges de Philippe le Bel, qu'il avait même doté d'un revenu à héritage, ainsi qu'on le faisait pour les grands serviteurs de la couronne. Et il n'avait jamais rendu de compte de son administration. Il craignait que Charles de Valois, hostile depuis toujours à la promotion des bourgeois au grand poste, ne le destituât de ses fonctions pour le spolier de l'énorme fortune qu'il s'était acquise. Cocatrix assura le comte de Poitiers en lui donnant 10 fois du messire régent, du dévouement de la population parisienne. Sa parole valait cher, car il était tout puissant au parloir, et assez riche pour payer en cas de besoin tous les truands de la ville et les envoyer à l'émeute. La nouvelle du retour de Philippe de Poitiers s'était rapidement répandue. Les barons et chevaliers qui lui étaient favorables accoururent au Louvre. Mahaut d'Artois, personnellement prévenu, fut des premiers à se présenter. « En quel état est mamie Jeanne ?» dit Philippe à sa belle-mère en lui ouvrant les bras.
« On attend sa délivrance d'un jour à l'autre !»«
Je l'irai voir aussitôt mes travaux achevés. » Puis il se concentra avec son oncle d'Evreux et le connétable.